Isabelle Gresley, vous arrivez de Genève, vous êtes pasteur de l'Église protestante, vous avez une obsession, repenser la formulation des questions essentielles telles que la vie, la mort, l'au-delà. Pourquoi?
Parce que tout simplement, c'est la tâche même de la théologie. Je parle là aussi en tant que théologienne. Saint Anselme de Cantorbéry avait cette très belle phrase, cette très belle définition de la théologie comme une foi qui cherche une intelligence. Et la foi, pour moi, ce sont des étincelles qui nous traversent de temps en temps, parfois souvent, parfois moins souvent, mais en même temps, c'est aussi un sens à chercher. Et je crois que chaque théologien de chaque période de l'histoire du christianisme s'est attelé à cette tâche de répondre aux questions essentielles sur la vie, quel sens à la vie, quel sens à la mort, et au fond, que se passe-t-il dans ma vie qui aurait ou n'aurait pas d'influence sur l'au-delà?
Et on s'aperçoit tous qu'il y a un paradoxe, à savoir que les préoccupations spirituelles aujourd'hui sont immenses et en même temps, le christianisme ne parle plus.
Oui, les enquêtes des sociologues de la religion nous montrent très bien qu'aujourd'hui, la spiritualité, en tous les cas au niveau occidental, est une spiritualité vibrionnante qui fait un petit peu son marché dans les offres religieuses. Mais souvent, eh bien, cette spiritualité va chercher ailleurs, dans des spiritualités orientales qui ont paradoxalement plus d'attrait. Et au fond, les traditions historiques du christianisme ne gagnent rien de cette rééclosion, de cette recherche du sacré, de cette recherche du spirituel.
Comment est-ce que vous en êtes venue là, Isabelle Gresley? Vous êtes théologienne, vous êtes pasteur de l'Église protestante à Genève. Comment est-ce qu'on en vient à se poser toutes ces questions?
Parce que je reste une amoureuse de la Bible, de l'Écriture. Je reste persuadée, et j'allais dire j'en ai la preuve tous les jours, de l'inspiration des Écritures. C'était quelque chose, je crois, qui a tenu à cœur, bien sûr, à tous les siècles du christianisme, mais si vous me le permettez, je dirais, c'est notamment ce que les théologiens de la Réforme du XVIe siècle ont essayé de remettre au centre, au fond, de dire aux gens, apprenez à lire, apprenez à lire cette Bible, ces textes que l'on va vous traduire dans votre langue et rendez-vous compte en la lisant, cette Bible, que cette parole est une parole qui vous parle encore aujourd'hui. Et je ne prends pas cette inspiration au sens littéral du terme, bien au contraire, mais je crois que c'est au fond un petit peu ça qui me fâche. C'est quand je vois nos institutions ecclésiales qui ont, j'allais dire, tout en main et avec des déficits par ailleurs, peut-être très différents entre les trois grandes familles du christianisme, le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme. Je pense que chacune a ses manques, chacune a ses déficits, selon sa propre histoire et sa propre tradition, alors qu'elles sont si complémentaires et qu'elles pourraient travailler, je crois, en bonne intelligence. Mais je crois surtout qu'il revient de se recentrer sur cet essentiel, de laisser de côté l'accessoire et de revenir à cette parole qui permet au fond l'éclatement de ces petites étincelles dont je parlais tout à l'heure. Je les appelle des étincelles messianiques, non pas que nous soyons nous-mêmes des messies, mais je crois qu'on peut en recueillir quelques bribes parce que le messie, ça, il est venu, il a accompli sa tâche, son ministère. La seule chose, c'est que il y a quelque chose que j'aime aussi beaucoup dans le judaïsme, c'est cette façon de se dire au fond, il y a quelque chose en moi qui peut donner naissance au Messie. Donc, si je me laisse toucher par ces quelques bribes, ces quelques étincelles, et c'est un feu d'artifice quand on ouvre la parole, quand on la lit et quand on la laisse nous habiter.
En quoi les défis que vous êtes en train de nommer sont-ils si fondamentaux pour l'avenir du christianisme?
Je crois aussi que globalement, et sans jouer les Cassandres, notre civilisation au niveau mondial arrive à une espèce de saturation. Je suis frappée aujourd'hui de lire beaucoup d'intellectuels, mais aussi beaucoup de poètes, beaucoup de philosophes, beaucoup de sociologues qui partagent au fond cette impression d'une espèce de saturation, je le disais, d'une espèce de fin, mais pas la fin de tout, on peut l'espérer, si la conscience mondiale se réveille, notamment par rapport aux enjeux globaux de la Terre, de ne pas laisser mourir notre Terre. Mais je pense au fond qu'il y a, et on le voit quand même, certaines voix qui se font jour pour dire mais au fond, c'est l'humain qui est important. Je crois qu'au moment où, au niveau mondial, le monde entier va affronter cette crise, je l'espère, qui ne sera pas ultime, eh bien, le christianisme a son rôle à jouer. Je pense encore une fois que ce n'est pas en le jouant en opposition ou en rivalité avec d'autres traditions religieuses, c'est peut-être un des bienfaits de la mondialisation aujourd'hui, que nous sommes non pas tous sur le même plan, parce que chaque tradition a sa différence et a son origine, mais qu'il y a, j'allais dire, non pas une carte à jouer pour le christianisme, mais une voix à faire entendre. Parce que c'est sa spécificité, je crois, de donner autant de place à l'humain.
Donner autant de place à l'humain, redécouvrir l'homme dans toutes ses dimensions. Vous êtes une femme, vous êtes théologienne, donc vous abordez les choses autrement.
Oui, je suis aussi une enfant de mon siècle et je suis une enfant de cette fameuse post-modernité, de cette post-rationalité. Au fond, ce qui a marqué le XXe siècle, mais encore une fois, ce n'a été que l'aboutissement des siècles précédents, c'est au niveau des relations entre hommes et femmes, c'est un peu une bagarre, si vous voulez, entre deux approches, l'approche de l'égalité et l'approche de la différence. L'égalité, ça a été tout le combat social, le combat politique qui a souhaité, qui a voulu obtenir une égalité juridique, politique, sociale, économique entre hommes et femmes. On n'en est pas encore là, ça c'est sûr. Et puis, il y a eu un autre courant très fort qui a été plus sur, qui lui aussi tire ses origines de l'Antiquité, sur une accentuation de la spécificité des femmes. Au fond, les femmes restent des humains à part entière, mais avec une perception très différente. Et là où j'en suis, moi, de mon évolution, c'est que je me dis que l'autre voie, la voie de la spécificité, est aussi une voie à développer, mais là encore, il ne faut plus les opposer. La question, c'est d'une part de rassurer le masculin, les hommes, pour leur dire que cette spécificité ne va pas être un pouvoir de plus qui les anéantirait, mais simplement qu'en développant la spécificité féminine, on va vers un partenariat beaucoup plus intéressant et pour les hommes et pour les femmes.
Isabelle Gresley, vous êtes maintenant directrice du musée de Genève. Comment ça s'est passé ?
Avec ces chaos sur la route et aussi ce que j'appelle des tentations. Ça aussi, c'est un des récits marquants dans l'évangile de Matthieu, les tentations de Jésus. Et au fond, à nouveau, lorsqu'on se plonge dans le texte original, on se rend compte que le vrai terme, c'est le mot épreuve. Littéralement, une tentation est une épreuve. Et peu importe que l'on tombe, que l'on chute, mais il y a quelque chose qui se passe. L'épreuve est essentielle parce que vous sortez changé, vous sortez complètement différent. Ce que va apprendre notamment Jésus de Nazareth après l'épreuve du désert, après ce face-à-face avec le diable, avec celui qui va le pousser dans ses moindres retranchements, c'est qu'il sera certes Messie, mais pas un Messie dans la toute-puissance, mais un Messie dans la toute-fragilité.
Et ça a été quelque chose pour vous qui vous a parlé dans votre vie ?
Oui, j'ai eu deux ou trois épreuves qui se sont conclues la plupart du temps par des renoncements. Et je comprends aussi mieux aujourd'hui cette autre parole de Jésus de Nazareth quand il dit qu'au fond, eh bien, il y a un moment où il faut renoncer à soi-même. Pour porter sa croix, oui, mais surtout renoncer à quelque chose. Il y a quelque chose qui doit céder en soi, un poids qui s'enlève.
On pourrait dire une digue qui laisse l'eau passer.
C'est une belle image aussi, et je la reprends à mon compte. Et au fond, l'essentiel, c'est que le parcours continue. Le parcours cabossé au sens même des stigmates, là je reprends des mots qui sont propres à la tradition de la ville éternelle dans laquelle je me trouve, mais que la protestante que je suis veut bien assumer parce que je l'assume aussi au sens profondément existentiel. C'est au fond un voyage que nous accomplissons. Là aussi, je pense à cette épître aux Hébreux, nous sommes étrangers et voyageurs sur terre. Et pour ce voyage, eh bien, il y a de temps en temps quelques épisodes qui vous marquent, qui vous changent profondément, et la digue s'ouvre et vous pouvez continuer, la barque peut continuer. La seule chose, c'est qu'on porte en soi les bleus, les marques de ces blessures, et en même temps, on est à soi-même, vous naissez à vous-même et vous vous rapprochez de ce que vous pourriez être au sens d'une grandeur qui nous est donnée, pas dans le sens d'une grandeur pour soi, mais évidemment pour tourner vers l'autre.